Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Antoine Garapon rencontre Stéphane Breyer. Ce soir, la polarisation de la politique américaine.
Bonsoir, Stéphane Breyer. Hier soir, vous nous parliez du sénateur Kennedy. Il a eu une très grande importance dans votre vie, le sénateur Kennedy. C'est la rencontre avec lui qui a déclenché beaucoup de choses.
Oui, exactement. J'avais de la chance. J'étais jeune professeur à Harvard. Et effectivement, il voulait quelqu'un qui avait une connaissance d'un certain sujet, parce qu'il devient, sénateur Kennedy, le président d'une comité de la judiciaire qui concerne la réglementation des entreprises, le droit administratif.
C'est ça, on dirait la commission des lois en France. C'est-à-dire, c'est pas uniquement la justice, c'est tout le domaine juridique.
Oui, c'est ça. Donc, je l'ai rencontré. Probablement, il connaît quelque chose de moi parce que l'été avant, j'ai travaillé pour Archibald Cox, qui était le principal procureur en Watergate. Donc, j'étais en son équipe et probablement il m'a donné une recommandation au sénateur Kennedy.
Donc en fait, l'entrée, le rapprochement de la politique, c'est par le Watergate. Vous êtes pris dans l'équipe de Archie Bucks.
Oui, c'est ça.
Pour faire l'enquête du Watergate.
Oui, j'avais une position très mineur.
Oui, mais c'est quand même une enquête historique, le Watergate.
Oui, c'est ça. C'était bien intéressant. Et Archie Cox était un homme qui vraiment une probité parfaite. Il était honnête homme et il était investigateur. Il va investiguer où, n'importe où. Les faits lui mènent. Et j'étais là pour aider avec un aspect de cette grande investigation, un aspect qui concerne le droit de la concurrence. Il y avait une entreprise, une personne dite Beard, qui a écrit une mémoire pour dire qu'il y avait quelques connexions entre une contribution à la campagne électorale et certaines actions du département de la justice. Mais en tout cas, ça faisait partie de cette grande investigation de Watergate.
Archie Bucks est un homme, c'est intéressant parce qu'il est intéressé par la vérité des faits et que la vérité. C'est une enquête, alors là pour le coup, très française comme manière de faire les choses.
Oui, très bien, très bien. Mais la vérité, c'est qu'il était licencié, enfin, par le président. Et parce qu'il y avait, personne ne se souvient de ces moments, mais au moment, il y avait beaucoup de publicité. C'était très connu que le président Nixon avait des cassettes. Et professeur Cox, on cherchait. Et il y avait un contretemps et le président Nixon a proposé qu'il y aura un sénateur qui écouterait aux cassettes et rapporterait à professeur Cox ce qu'ils ont dit. Mais Cox savait très bien que le sénateur était sourd. Il ne pouvait rien entendre. Et ça, enfin... le président a licencié Archibald Cox et naturellement toute l'équipe, le cabinet, toutes les jeunes avocates étaient furieuses et ils voulaient quitter l'affaire. Mais Archie Cox a dit non, il faut rester. Vous êtes ici pour faire un travail, il faut le faire.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Et il était, il a fait une transmission de télévision. Et il a dit, c'est très bien, je suis désolé que le président a décidé de me licencier. Mais je me demande si je me vends trop ou je me pense trop grande. Non, je ne le suis pas. J'essaie à suivre les faits. Donc, on a nommé un autre procureur. Et enfin, tout le monde sait ce qui est arrivé.
C'est arrivé. Mais c'était un moment historique et qui vous rapproche de la politique. Vous oui, venez à Washington.
Oui, c'est
vous,
ça.
Et là, vous voyez ce que c'est que la politique américaine avec sa proximité aussi avec la justice.
Oui. J'ai appris quelque chose des personnes comme Cox et j'ai appris quelque chose de l'affaire. C'était l'été de 73.
C'est ça. Mais Stephen Breyer, vous êtes maintenant juge à la Cour suprême des États-Unis. À ce moment-là, vous avez le sentiment peut-être de faire quelque chose de sacrilège, d'enquêter contre le président et de déséquilibrer, de menacer l'équilibre des institutions politiques américaines.
Ça, c'est une très, très bonne question. Parce que la Cour suprême des États-Unis... C'est une cour de droit. Il faut appliquer le droit. En même temps, aussi, c'est une institution du gouvernement. Et on le sent. Les professeurs qui écrivent ce que font la Cour suprême, ils ne le sentent pas comme une juge qui est là. Donc, il y a une certaine responsabilité envers les autres institutions du gouvernement et en même temps à la public américaine. Par exemple, il y a des questions où il faut équilibrer l'intérêt dans la sécurité des personnes dans un monde où il y a vraiment le terrorisme. Ce n'est pas à nous de protéger le peuple américain, parce que la Constitution des États-Unis donne le pouvoir de la guerre et de la sécurité au président et au Congrès, pas au juge. Mais s'il y a un conflit entre cet intérêt et l'intérêt de droit humain, l'intérêt de droit de l'homme, l'intérêt de libre expression, de ne pas être dans la prison sans crime, etc. Ça, c'est à nous. C'est pour eux aussi, mais nous avons le mot ultime en ces questions. Que faire s'il y a un conflit? Que faire? Voilà une grande question.
Et la question vous a été posée, on anticipe un peu, mais dans toutes les affaires de Guantanamo, ce qu'on appelle les affaires de Guantanamo, c'est-à-dire qui sont liées au terrorisme djihadiste, la Cour suprême a dû se confronter très concrètement à cette question.
Oui, exactement. Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Comment vous avez trouvé votre place en tant que Cour suprême vis-à-vis de ces questions de sécurité avec cette perspective de l'équilibre institutionnel? En tant que juge à la Cour suprême, vous remplissez, nos auditeurs le savent peut-être pas, un rôle éminemment politique, qui a des conséquences éminemment politiques, peut-être plus que n'importe quelle autre cour au monde.
Oui, ça c'est un excellent exemple de ce conflit. Il faut se souvenir de ce que nous soyons chargés de trancher les affaires concrètes. Donc, on n'a pas la responsabilité, on n'a pas le pouvoir à dire si les prisonniers, en général, devraient être à Guantanamo. On ne peut trancher ou contrôler des affaires concrètes. Il y en avait 4. Chacun avait le demandeur était... un prisonnier à Guantanamo. Le répondeur était le président des États-Unis. Le moins puissant, le moins populaire, un d'eux, était le chauffeur de Ben Laden. l'autre côté, la personne la plus puissante aux États-Unis, probablement. Et en chaque affaire, c'était le prisonnier qui a gagné. C'est très bien ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient raison. Mais les questions étaient concrètes. En deux des affaires les plus importantes, c'est une question s'il peut avoir recours aux tribunaux. Est-ce qu'il peut apparaître dans les tribunaux ordinaires? Ça s'appelle en anglais le writ of habeas corpus.
De réclamer la protection judiciaire.
Oui. Exactement, c'est ça. Et ça devient de peut-être le 13e siècle en Angleterre, avec le roi Jean, avec le Magna Carta. Mais n'importe qui, s'il est emprisonné, j'avais une femme qui a découvert quand j'étais à la cour d'appel de Boston. Elle était mise par quelqu'un et elle a appris que son mari était emprisonné à Puerto Rico. Il était un homme de République dominicaine. Il a jeté une pierre de la fenêtre. Elle va au juge et il est libéré tout de suite parce qu'il n'y avait pas de raison. Donc, une action importante. Et question, est-ce qu'une personne à Guantanamo qui n'est pas exactement dans les États-Unis, c'est une base militaire, est-ce qu'il a le même droit? Oui, nous avons dit oui. De même, ça a commencé. Mais le Congrès a promulgué une loi qui a dit non. Donc, deuxième affaire, est-ce que cette loi est contre à la Constitution des États-Unis? Et dans l'affaire Boumediene, nous avons dit oui, c'est contre à la Constitution. Cette personne a le droit de réclamer la protection des cours. Il y en avait un autre. Est-ce qu'on peut emprisonner quelqu'un? Nous avons dit là, oui, parce que c'est un prisonnier d'une guerre active. Il était saisi en Afghanistan. Et nous sommes en train de mener pour le bon, pour le pire, une guerre en Afghanistan. Mais nous n'avons pas dit ce qui arrive après la guerre. Nous avons dit pendant la guerre, c'est comme la guerre, deuxième guerre mondiale, il y avait des prisonniers des guerres. Mais si le prisonnier dit, mais je ne suis pas combattante, j'étais un fermier. J'étais paisible. Et le gouvernement dit, paisible, mais vous aviez une bazooka. Que faire avec cela? Il a dit, mais tous les fermiers en Afghanistan, ils ont besoin de bazooka, etc., etc. Nous avons décidé qu'on peut emprisonner cette personne si il y a un procès juste et équilibré devant un juge qui est neutre et avec la possibilité de présenter et voir les preuves et les témoins. Donc, c'était un autre. Mais ça, c'était la nature. Non. Est-ce qu'il a marché bien? Qui le sait? Exactement.
Alors, est-ce que le fait d'avoir participé à l'enquête du Watergate et puis ensuite d'avoir travaillé au Sénat, est-ce que vous pensez que ça vous aide à avoir un jugement plus équilibré, plus respectueux des pouvoirs du Congrès et des pouvoirs du président?
Probablement, oui. Parce qu'il y en a qui pensent que le Congrès n'est pas populaire à ce moment aux États-Unis. Et j'y ai travaillé. Donc, peut-être que je suis un peu préjugé en sa faveur. Mais je pense que quand quelque chose ne marche pas dans le Congrès des États-Unis, je pense, première, mes citoyennes ordinaires, membres du public, qui critiquent le Congrès. Si vous cherchez la raison non, regardez dans le miroir, dans la glace. Parce que les membres du Congrès, dans une démocratie, reflètent ce qu'ils veulent les citoyennes, les électeurs. Parce que s'ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent, ces électeurs, ils ne vont être dans le Congrès longtemps, parce qu'ils sont élus. Donc, quand il y a des problèmes, les problèmes commencent avec, moi, je pense, l'éducation, le public. Il veut des choses qui sont contradictoires maintenant, avec, etc.
C'est ça. Mais alors, justement, le Congrès, les membres du Congrès, les sénateurs, reflètent l'opinion américaine. Oui. Quand on voit la manière dont vous travaillez à l'époque, au Congrès, il y a 30 ans, on est vraiment très surpris. On mesure que les temps ont véritablement changé. Vous expliquez que vous vous rencontriez tous les matins, vous preniez un petit déjeuner tous les matins avec l'opposition.
Oui, évidemment, il a changé. Évidemment, il a changé beaucoup. Quand j'ai travaillé, j'étais avec Senator Kennedy, j'étais le chef de l'équipe, je ne sais pas exactement comment on a dit.
Directeur de cabinet.
Oui, directeur de cabinet, non pas dans le comité judiciaire.
Ah oui, c'est ça, la commission des lois. Vous étiez le secrétaire de la commission des lois.
Oui, c'est ça. Et j'ai travaillé avec eux. C'était une aussi grande équipe. Et il y avait peut-être 60 professionnels. Mais chaque matin, mon ami Ken Feinberg, qui était le numéro 2, ou je dirais un et demi, les trois de nous, moi, Ken Feinberg, et le chef du cabinet, la même position pour le républicain, le grand républicain, Senator Thurmond.
Alors que vous, Stephen Breyer, vous étiez côté démocrate.
Oui, oui. Et nous avons le petit déjeuner et nous faisons un programme pour le comité, ensemble. Ensemble. Et s'il y avait un projet de loi, nous déciderons peut-être comment faire une couleur politique, rouge ou bleu, pour que les républicains puissent y voter pour.
C'est ça.
Et les démocrates aussi. Et donc, avec les nominations des juges fédéraux, vous savez certainement qu'il est nécessaire de recevoir une confirmation par le Sénat. Il y avait 200 qui étaient nommés par le président Carter, un démocrate, et nous avons fait une investigation, background, etc., de chacun, avec une équipe, un démocrate, un républicain, ensemble.
Recherche.
Et il y avait un rapport, ensemble. Et Kennedy, nous aimons bien Kennedy, parce qu'il avait un sens d'humeur. Et c'était toujours un plaisir. Il était un homme très sérieux. Il voulait accomplir quelque chose et il voulait donner une recognition aux membres de son équipe qui étaient en train d'accomplir quelque chose. Accomplir quelque chose pour qui? Peut-être le sénateur, mais surtout pour le public. Quelque chose de bien.
Vouloir améliorer la condition du peuple, c'était ça?
Oui, c'est ça. Mais aussi, c'est un mélange de la politique. C'est personnel, on voulait s'avancer. En même temps, avec une équipe des personnes, il y a la loyauté avec les autres personnes. Mais enfin, au fond, c'est un effort, et je crois que tous les politiciens, n'importe où, ils ne le disent pas parce que personne ne le croit. Mais il est vrai qu'au fond de leur cœur, ils veulent accomplir quelque chose pour le pays, ou pour les membres de la public. Donc, il y avait une joie. Il y avait, je souris quand je m'en souviens. Mais c'était toujours un grand plaisir. Mais ces mots, j'ai cherché comment les traduire en français. Il dit toujours en anglais à son équipe, s'il y avait quelques difficultés avec quelques républicains ou démocrates, il dirait « work it out, work it out ». Peut-être « trouver les moyens, trouver les moyens ». Et si on dit, mais sénateur, comment? Il dit, ah, ça c'est de vous. Vous êtes ici pour quelque raison. Et un jour, je me souviens maintenant, il y avait une réunion de la comité en public. Et ce matin, parce que l'élection approche, le sénateur Thurmond a dit à son Emory Sneedon, qui avait été un général de l'armée, il dit, Emory, il ne faut pas déjeuner avec ses autres. Il faut séparer les deux partis, l'élection approche. Et cet après-midi, il y avait une réunion, et à cause, je crois, que nous ne pourrions pas programmer l'affaire, tous les sénateurs étaient dans des arguments affreux. Et sénateur Kennedy, il me regarde et dit, « Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à faire avec des situations comme ceci à Harvard? » Très bien. Il a résolu l'affaire.
Mais vous parlez comme hier, vous parliez de San Francisco, vous parlez d'un moment où la politique marchait, où on trouvait des solutions. Ça marchait assez bien. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est bloqué, que les républicains parlent plus aux démocrates.
Pas tout. On m'a montré une carte des États-Unis, une carte politique, et on fait une comparaison entre le monde électoral de 76 et de 2006. On met en couleur les counties, pas les départements, comme les départements, mais les petites. Et ils sont en blanc. Si républicains et démocrates, c'est divisé 50-50 environ. Et si c'est 60-40 ou pire, c'est bleu ou rouge. Il y a 30 ans, blanc, à peu près toute la carte. 2006, peut-être la moitié, rouge ou bleu. Ça veut dire que les personnes de la même vision politique sont les voisins. Ils habitent près de l'autre. Ça, c'est un dommage. Parce qu'on peut en diaboliser les personnes qu'on ne connaît pas. On ne peut pas diaboliser les voisins. Et donc, si on trouve cette chose géographique plus divisée géographiquement, en même temps on a la télévision, et ça veut dire tout de suite n'importe quelle remarque d'un politicien est transmise au public avec une interprétation le pire possible, et donc le public devient trop cynique. Et ça devient de pire en pire. Et peut-être il n'y a pas une grande différence en Europe. Mais je ne sais pas.
En Europe, on assiste à ces mêmes mouvements de polarisation, on dirait, de polarisation de la vie politique. Mais la drame, et ça ressort très bien de ce que vous nous dites sur la manière de travailler, c'est qu'il est de plus en plus difficile de se parler à tous les niveaux.
Oui.
De se parler avec le voisin qui ne pense pas comme soi, mais qu'on connaît, et on sait que c'est un brave homme, aussi bien qu'avec l'opposition pour essayer de trouver des solutions concrètes. Ça, c'est en train de disparaître.
Oui, mais il ne faut pas désespérer, parce que si, même aux États-Unis, on dit que les États-Unis sont comme tous les autres pays, mais plus.
Toujours, dans les extrêmes.
Oui. Donc, il y a un extrême, et ça change. On va dans l'autre direction. Et peut-être c'est trop optimiste, mais l'homme, la femme ordinaire n'est pas un imbécile. Il voit ce qui arrive. Donc, il voit une nécessité pour des compromis, une nécessité pour être modéré, et on va voir ce qui va arriver.
Le voit-il encore? Parce que vous ajoutez que les médias jouent un rôle important là-dedans. C'est-à-dire que les médias ont tendance à radicaliser, à ne présenter qu'une version finalement un peu simpliste des choses. Et donc, les médias accéléreraient ce mouvement de polarisation, voire de radicalisation. Mais c'est à ce moment-là qu'on a besoin des juges, Stephen Breyer.
Peut-être, mais les juges ne peuvent pas résoudre les problèmes de la société. Et si on dit, oui, c'est une polarisation, et c'est peut-être, c'est une spéculation, mais avec l'Internet, si on ne regarde que les programmes avec qui on est d'accord, cette polarisation devient de pire en pire. Mais on ne peut y rien faire parce que les médias, les journalistes et l'Internet, c'est comme la mer. Ça existe. On ne peut pas le changer. Donc, il faut avoir une politique qui se rend compte de ces faits qui ne sont pas changeables, ne sont pas trop, on ne peut pas trop modifier. Et est-ce que ça va arriver? On espère, on espère. Mais ça ne veut pas dire que les juges doivent trancher chaque division en société. La Constitution des États-Unis ne dit pas comment on va habiter, comment on va vivre dans la société américaine. Ils mettent des grandes lignes, ils mettent des frontières. C'est une copie des visions des Lumières de 18e. Et je dis de temps en temps que la Constitution des États-Unis, c'est les Lumières de la France figées dans ce document pour 200 ans plus que ça. Et cela, écrit en valeur, a marché. Il a marché. Mais c'est les grandes lignes et les décisions. Quelle espèce de ville est-ce que vous voulez? Quelle espèce de département, d'État? Quelle espèce de vie est-ce que public, sociétal, est-ce que vous voulez aux États-Unis? Il faut que vous participiez dans le gouvernement, dans la politique, dans la vie de la communauté, et ne espérez pas dans les juges, parce que c'est une frontière, c'est comme, nous sommes comme la police de la frontière, on ne peut pas aller trop loin. Mais la vie à la frontière, je dis de temps en temps, ce n'est pas exactement facile, difficile, si aborde l'avortement. Et protégé ou non. Ah, question difficile.
C'est ça.
Mais il ne faut pas penser que si les questions sont difficiles, ça veut dire que les juges sont les gouverneurs. C'est le contraire. On vit dans les frontières.
Eh bien, Stephen Breyer, bonsoir. Et je vous dis à demain pour approfondir le rôle de la Cour suprême dans la démocratie américaine.
Merci.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Antoine Garapon rencontre Stéphane Breyer. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Laurent Lucas et Marc Garbanès, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre d'Antoine Garapon avec Stéphane Breyer.